Mensch bei mir nicht und na wat denn mein Sohn? Und fehlt wo, dann lass mich's mal wissen. Und ne feinere Regung, nicht um ne Million, da wird ihm auch alles gepfiffen.
C'est cabaret ce soir, mais pas que dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de tango, de bossa nova, de Pablo Neruda, de Kurt Weill, de violoncelle et même de Tintin. Avec Ute Lemper qui signe Forever, The Love Poems of Pablo Neruda, un album en trois langues qui visite différentes musiques pour célébrer la parole internationale du poète chilien, prix Nobel de littérature en 1971, Lucille Comeau.
Et Ute Lemper jouera dans le studio 108 en direct un titre, le chant d'une femme à son amant parti sur les mers, ce sera La Nuit dans l'île, accompagné au piano par Serge.
19h30, plateau Voyage avec Henri de Marquette, figure emblématique de la grande école française du violoncelle, Lucille.
Portrait d'un musicien voyageur qui parcourt avec Richard Galliano toutes les terres musicales et il jouera lui aussi en direct le chant des oiseaux, un chant catalan de Pablo Casals.
Une double session ce soir, c'est presque une première. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan que l'on ouvre tout de suite avec le son du jour de Zoé Sfez.
Es un producto que no ofrece publicidad, que es gratuito. No consideramos que sea posible pagar una tasa económica y que incluso sea sostenible en el tiempo.
Se está perjudicando la capacidad que tengo yo como usuario de informarme de una forma más sencilla.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Un son du jour bien espagnol.
Tout à fait, alors celle que l'on a entendue au début de cette interview, c'est la chef de Google en Espagne et au Portugal, car c'est la grande information de la semaine en Espagne. Google News ferme en Espagne à partir de mardi prochain. C'est la fin assez radicale du conflit qui opposait le géant américain aux éditeurs de presse et la conséquence de l'entrée en vigueur de la fameuse loi sur la propriété intellectuelle espagnole. Donc ça c'est début janvier. Cette loi, elle prévoit d'imposer le paiement d'une redevance à tous service en ligne dès lors qu'il utilise du contenu créé par des éditeurs de presse espagnole sur leur service. Alors Yahoo News, grand portail d'actualité, MSN Actualité ont accepté, mais pas Google qui considère que son portail est gratuit, c'est ce que disait la patronne de Google à l'instant, qu'il ne contient pas de pub et qu'il ne fait que mettre en valeur le contenu des sites d'info. Il considère qu'il n'a donc pas à payer de taxes. En représailles, le moteur de recherche va donc fermer son portail d'actualité en Espagne et de fait, tous les sites espagnols ne seront plus visibles sur les Google News dans les autres pays, un choix qui risque sérieusement d'entamer leur visibilité.
Merci Zoé, on se retrouve lundi. Vous
avec
êtes libéré.
Plaisir.
Ah, j'espère bien. Et on poursuit tout de suite ce journal de la culture avec le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour ouvrir ce supplément, eh bien, votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et à l'occasion des 40 ans d'une série culte des après-midi télévisuels, je vous propose de faire le point ce soir, Laurent, sur l'industrie audiovisuelle la plus dynamique d'Europe, les séries télévisées allemandes et en particulier son genre phare, le crimi, le polar allemand, 40 ans après la première apparition sur le petit écran du célèbre flic munichois Derrick.
Alors pour nous en parler, qui avez-vous contacté cette fois ?
Eh bien partant du principe qu'il n'y a pas qu'à Paris que l'on a un avis, j'ai téléphoné à Nancy, au professeur Henri Larski, qui a fait de l'étude de séries allemandes d'hier et d'aujourd'hui son objet d'étude. Et au téléphone, j'ai soumis Henri Larski à mon interrogatoire et je lui ai demandé, pour commencer, ce qui avait changé en matière de séries policières depuis l'automne 74, quand sur l'antenne de la ZDF, tel le Messie, naquit l'inspecteur Derrick.
Série plutôt rassurante. Derrick, c'était le flic qui arrivait déjà à résoudre à chaque fois les enquêtes au bout d'un épisode, qui était l'allemand posé, l'allemand qui s'énervait rarement, qui analysait la situation. Donc il amenait quelque chose de rassurant, d'autant plus dans une ville qui était Munich. Et Munich est tout de même une des rares villes qui a été assez peu détruite au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une sorte de monument historique d'ailleurs. Le dernier épisode, on le voit partir pratiquement de ce qui ressemble à une sorte de temple, de quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la réalité, renvoie cette image de vraiment de père de la nation.
Aujourd'hui, un flic de crimi allemand ne peut plus être un père de la nation ?
Ah, beaucoup moins, beaucoup moins. Aujourd'hui, on voit des flics beaucoup plus en phase avec notre société, c'est-à-dire des flics qui parfois viennent de l'immigration. À Hambourg, par exemple, on a eu pendant 8 épisodes un policier, un commissaire qui était d'origine turque. On a aussi des femmes, bien sûr, aujourd'hui beaucoup de femmes commissaires. Et on a surtout des personnages qui ont une vie privée qui est complexe. Donc on a aujourd'hui des personnages qui sont en phase avec ce qui se passe et qui ont des problèmes familiaux, des problèmes d'alcool. Donc on est très loin de l'image de Derrick qui a toujours été qu'un flic et rien qu'un flic.
Alors pour aller au-delà, j'ai demandé à Henri Larski, chercheur associé au laboratoire LIS, Littérature, Imaginaire et Société de l'Université de Lorraine, de nous expliquer pour quelles raisons la production de fiction était si imposante outre-Rhin. Une réponse qui devrait être méditée, notamment du côté de France Télévisions. Rapide explication.
Tout simplement parce que les chaînes publiques, la ARD et la CTF, ont fait ce choix déjà de ne plus diffuser de séries américaines depuis maintenant plus de 10 ans. Donc vous ne verrez plus aux heures de grande écoute de séries américaines. Donc il faut bien remplir les cases destinées aux séries ou aux téléfilms. Et donc il reste de très très gros producteurs de séries et de téléfilms. Il y a beaucoup de coproductions avec les pays scandinaves, en particulier avec le Danemark, avec la Suède. Donc, à ce titre-là, oui, ça reste le pays qui actuellement reste le plus gros producteur de fiction en Europe.
Peut-être une réaction, Ute Lemper, par rapport à ces séries allemandes que vous avez dû connaître à un moment donné dans votre vie.
Je connais bien Derek dans les années 60-70. Oui, j'ai grandi avec ça en Allemagne. Mais incroyable que vous en parlez de ça. Moi, j'ai bien arrêté très longtemps de regarder des choses comme ça. Non, et je regarde très peu la télé et vraiment, j'habite à New York, alors je ne regarde pas les émissions allemandes.
Et les séries américaines? Pas plus que ça. Hein.
Non, mais c'est horrible. On met la télé, c'est nul du matin au soir. C'est terrible, je ne peux pas. Et aussi, la seule chose en Allemagne, quelquefois quand je suis là, il y a quand même des choses très intéressantes, des choses politiques, culturelles. Il y en a quand même des conversations intellectuelles. Là, ça, en Amérique, pas du tout. Rien. Grave. Nul. Ground zero.
Henri de Marquette, Derek, non, ça vous dit quelque chose?
Moi, j'ai pas la même.
On regarde dans les hôtels.
J'ai pas la même maturité, moi, parce que en fait, j'adore les séries. Et je connais très bien Derek. J'en ai vu plein d'épisodes, ce sort de Maigret allemand là. Et puis alors, il y a cette couleur générale teintée de vert et de marron, enfin, des couleurs qu'on n'aurait jamais imaginées pas, à mettre en scène, qui sont en effet, pour le coup, très très réalistes, si le personnage ne l'est pas et un peu idéalisé. Enfin bref, il y a plein de séries allemandes qui sont pas mal d'ailleurs. Et c'est vrai que moi, je regarde les séries américaines. Le format me plaît et voilà, ça fait partie des choses. Je lis pas mal et quand je regarde la télé, j'ai pas envie de voir des choses qui me complique trop la vie. Alors j'avoue que j'aime bien la série et son format et le crimi en particulier. Je suis affreux.
Ah oui, mais on ne va pas avoir. On va aller au dîner après.
Non,
on va faire des émissions séparées. Benoît Lagane. Et l'on poursuit ce supplément avec votre petite revue de presse de la semaine. On commence par lundi.
Et lundi, c'était biographie dans la colonne People Express, les brèves loisirs et spectacles du quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. On apprenait que le biopic consacré au commandant Cousteau faisait du surplace. L'Odyssée, c'est le titre de ce film qui doit être tourné pour le cinéma par Jérôme Salles, vous savez, le réalisateur d'Anthony Zimmer, Largo Winch ou Zulu. Bien, ce film serait confronté à de problèmes de financement et donc suspendu pour une durée indéterminée.
Mardi, c'était Californie.
Oui, dans la colonne, en bref, des pages culturelles du Figaro, on apprenait mardi dernier, je cite, que peu de temps avant de divorcer, le joueur de baseball Joe DiMaggio avait adressé une lettre à Marilyn Monroe dans laquelle il lui demandait de réfléchir. 3 pages manuscrites qui ont été adjugées lors d'une vente aux enchères organisée en Californie. Une lettre vendue un peu plus de $78,000.
Mercredi, c'était Aurélie.
Dans les pages en une de l'hebdomadaire Les Inrocks, Frédéric Bonneau et Anne Laffetter se sont entretenus avec Aurélie Filippetti qui revient sur son exercice du pouvoir durant 2 ans au ministère de la Culture. Et si elle revient essentiellement sur l'impossibilité d'un changement, tant le pouvoir est tenu, dit-elle, par une caste d'énarques, les journalistes des Inrocks ont demandé à l'ex-ministre si elle pourrait raconter son expérience dans un livre.
Du style « Merci pour ce moment ».
Peut-être. Et Aurélie Filippetti a répondu ainsi, je la cite, « Non, car j'ai une trop haute idée de la littérature. Il faut du temps, des années pour décanter, digérer, mais j'aimerais bien reprendre le temps d'écrire autre chose, une pièce de théâtre. »
Et aujourd'hui ?
Eh bien, ça bouge dans le monde de l'édition. Valérie Toragnan, ex-directrice de la rédaction du magazine Elle, va prendre la direction de la Revue des Deux Mondes à partir de janvier prochain. Dans un communiqué relayé notamment par le site actualité.com, la Revue des Deux Mondes annonce que Valérie Toragnan sera chargée, je cite, de donner une nouvelle impulsion à cette publication de référence. Elle prendra le relais de Michel Crébu qui va prendre la tête de la NRF au 1er janvier.
Et pour finir ?
Eh bien aujourd'hui, retour sur une information publiée mercredi et qui ne cesse de tourner et d'être relayée en écho de réseaux, en journaux et de blogs, en webzines, c'est dire
son importance.
Une information de taille, Laurent, vous l'avez remarqué, qui nous permet d'en savoir plus désormais sur ce que les internautes visionnent en priorité
Sur Internet,
j'ai bien évidemment, idée. C'est facile. Les web spectateurs regardent en priorité, et ça n'étonnera personne, des humoristes.
Ah bon, c'est ça ?
Eh oui.
Vous me plaisantez ou
quoi ? Des parodies, des caméras cachées, c'est ce qui est plébiscité en France par les internautes. Les deux vedettes préférées sont Norman et Cyprien, les vedettes des pré-ados et ados. Mais aussi, et ça c'est une surprise, une compilation d'une heure de dessins animés du gentil galopin, coquin, câlin, câlin, coquin, le petit ours brun.
Moi, avec mon chat, on a vraiment un bon feeling. À aucun moment, je regrette de l'avoir adopté.
Faux ! Il aime bien sa maman, son papa aussi. Il aime bien son papa, sa maman aussi.
On arrive à la fin de l'année, Benoît.
Mais non, mais ce qui veut dire que les enfants et pré-ados regardent Internet.
Mais c'est un truc sur les ados, c'est ça ? C'est des
non, non, c'est les vidéos regardées en majorité par les Français.
Mais plus personne ne regarde de sexe sur Internet ?
Et vous savez que les vidéos sont parfois bloquées quand même.
Ah d'accord, mais pour les enfants, mais pas pour les autres.
Oui, mais tous les gens...
J'ai rien compris.
Ce qu'on peut calculer en fonction de nombre de vues.
D'accord. Donc plus personne ne regarde le sexe sur Internet.
Ça vous a triché.
Bah, je sais pas, ce monde me désespère chaque jour un peu plus.
La moralisation générale.
Henri de Racade, bah oui, bah, bien sûr, c'est ça. Allez, on commence.
19-20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau cabaret, mais pas que. Avec vous, Ute Lamper, chanteuse, danseuse. Vous avez été Sally Bowles dans Cabaret sous la direction de Jérôme Savary, Velma dans la comédie musicale Chicago. On vous a beaucoup entendu dans le répertoire du cabaret allemand des années 20, Kurt Weill, bien sûr. Et vous signez cette année un nouvel album sous le label Caméléon, The Love Poems of Pablo Neruda, c'est-à-dire des poèmes d'amour du poète chilien prix Nobel en 71. Alors même que plutôt on connaît ces poèmes engagés, comment vous avez-vous choisi ce répertoire-là ? Est-ce qu'il y a un poème en particulier qui a été un déclencheur ?
Avant cette expérience de choisir ce poète et d'écrire la musique, j'étais en tournée avec le sextet de Piazzolla de Buenos Aires, partout au monde, et j'étais vraiment très inspirée par la musique du tango, la musique argentine et la poésie latino-américaine. Voilà, après ça... avoir chanté vraiment le grand répertoire de la chanson allemand, français, anglais, américain, tout ça. Je me disais, je veux créer quand même quelque chose de nouveau. Et j'avais avant composé la musique pour les textes de Charles Bukowski. Là, voilà, j'ai regardé un peu dans la littérature et toujours et tout de suite, je suis tombée sur Pablo Neruda, comme je le connais depuis longtemps, sa littérature, bien sûr. Je l'adore, il m'a toujours rappelé un peu l'esprit de Brecht avec son engagement antifasciste. Il était connu et très, très aimé par les gens en Espagne, en Italie. Il était aimé pour ses consolations dans les temps d'oppression. Et puis finalement, je me suis dit, mais je ne vais pas quand même prendre les poèmes politiques, mais quelque chose de plus universel, plus à travers des continents, à travers la politique, mais qui contient quand même son état exil, son feeling exil dans sa poésie. Et voilà, j'ai pris ce bouquin des Love Poems, les poèmes d'amour, et j'ai choisi 11 et je les ai mis en musique. Et le style, bien sûr, comme lui, il était citoyen du monde. Moi aussi, je suis citoyenne du monde. Il y en a latino-américains, il y avait des aspects de tango. Il était amoureuse de Matilda, argentine, toute sa vie. Il a vécu, il est aimé par les Argentins, mais il connaît l'Europe, il connaît le jazz, il a collaboré avec les grands artistes des années 60-70 en Europe. Et voilà, la musique est un peu à travers les différentes cultures.
À partir de quand vous vous êtes mis à composer Ute Lamper ?
C'était l'année 2000. Et à cette époque-là, j'ai fait un grand album avec Elvis Costello, Tom Waits, Scott Jay et Nick Cave. Et je me suis dit, c'était bien, mais je me trouvais un peu bizarre dans ce monde contemporain. Et j'avais tellement d'idées dans ma tête, en tout cas, idées, littérature, texte, mais aussi musique, que je me suis dit, bon, alors je vais me mettre...
À la composition.
À la composition, au piano, je vais commencer. Et avec la collaboration des superbes musiciens qui me connaissent bien, qui tout de suite comprennent ce que j'ai envie d'écouter, d'entendre dans les arrangements, avec un groupe, un team magnifique et amoureux. Voilà. voilà, ça, c'est déjà le troisième, quatrième album que j'ai écrit.
Lucille.
Vous pourriez écrire vos propres textes aussi ?
Oui, je fais ça aussi. Je ne pourrais pas faire ça en français parce que I'm not the master of the language. Mais en anglais, ça va très bien, comme j'habite à New York, c'est ma langue familière. Et bien sûr, allemand. Et voilà.
Vous écrivez des textes différents, j'imagine, en allemand et en anglais. Quels sont les thèmes que vous abordez dans une langue et dans l'autre ?
Oui, le sentiment est différent. Surtout quand on écrit en anglais, on ne peut pas être aussi expressionniste et profond comme on serait en allemand. Parce que les gens n'ont pas l'ouverture et l'acceptance pour ça. En général, les textes en anglais sont toujours un peu plus superficiels, plus « happy » que les textes français, la poésie française qui est toujours au bord de l'existentialisme, plus noir, plus profond et plus réaliste, et les textes allemands qui sont un peu plus expressionnistes, plus, peut-être un peu plus intellectuels.
Lucille.
On va vous écouter tout de suite, Ute Lemper. Je vais vous laisser rejoindre votre pianiste, Sergio Grousse, qui est déjà au piano. Vous êtes en direct dans le studio 108 pour donc un poème de Pablo Neruda qui est traduit en français. C'est le titre en français de l'album, La nuit dans l'île. Titre original, La noche en la isla. Et cet extrait de Los versos del capitán. Ute Lemper, c'est à vous.
J'ai dormi avec toi, près de la mer d'amblie sauvage et douce. Tu étais entre le plaisir et le sommeil, entre le feu et l'eau. Très tard, peut-être nos sommets se sont-ils unis par le sommeil ou par le fond là-haut. Des branches agitées par le même vent, en bas comme rouge, racines se touchant. J'ai dormi avec toi toute la nuit, alors que la terre en chenille tournait avec ses vivants et ses morts, et lorsque je me réveillais soudain. Par l'ombre environnée, mon bras te prenait par la taille. La nuit, ni le sommeil n'ont pu moucher par dans le sommeil, s'est-il aussi dépris du mien? Et sur la mer et sur sa nuit, m'a-t-il cherché comme avant toi et moi? Quand tu n'existais pas encore, sans qu'en s'apercevoir, je naviguais de ton côté et que tes yeux cherchaient ce que aujourd'hui, par un vent amour collé, je t'offre pleinement à toi la coupe qui attendait. De recevoir, je t'offre pleinement à toi la coupe qui attendait de recevoir les présents de ma vie, les présents de ma vie. toi et ta bouche rêvée sortie de ton sommeil m'a donné la saveur de la terre d'algues dont de marine qui s'abrite au fond de ta vie. Alors j'ai reçu ton baiser que l'aurore mouillait comme s'il m'arrivait de cette mer qui nous
Lemper, Sergio Cruz au piano, c'était La nuit dans l'île, un titre qu'on retrouve dans l'album de Love Poems of Pablo Neruda. Je précise aussi que vous serez en concert le 15 décembre prochain, salle Gaveau, à Paris. Alors pour La nuit dans l'île, vous chantez en français, c'est le seul titre en français de l'album, mais ce n'est pas la première fois. Vous avez déjà chanté Brel, Prévert, Piaf aussi bien sûr. Et dans l'album, vous chantez en trois langues, espagnol bien sûr, la version originale, mais en français et en anglais pour certains titres. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les traductions en fonction des poèmes? Par exemple pour celui-là.
Oui, c'était très intuitif. J'avais des différentes versions. C'est les versions officielles, les adaptations officielles, les bouquins en français, en espagnol. En allemand, j'en avais aussi, et en anglais. Et je ne voulais pas tous faire en espagnol parce que je le parle, mais pas très, très bien. Je le chante assez bien parce que je ressens la musique de la langue espagnole. Elle est fantastique, cette langue pour le chant. Mais je voudrais quand même donner un aspect international. Alors, j'ai choisi des très belles adaptations en anglais. Et la musique, surtout, était, quand j'ai choisi l'anglais, plus bluesy, un peu plus jazzy, plus open. Et pour le français, plus poétique, plus impressionniste, vraiment dans une mélodie assez caressant la langue. Voilà, le français marche bien pour ça.
Henri de Marquet, vous avez déjà croisé le chemin d'Ute Lemper?
Oui, sans qu'elle le sache.
C'est vrai?
Oui, parce que je l'ai entendu à l'Olympia il y a très
longtemps. Oh mon Dieu! Ah là là, il y a 25 ans.
Dans quel répertoire?
Grâce à un copain, c'était des chansons, du cabaret, de
show business.
Oui, c'était magnifique. Bon, voilà, c'était un ami qui m'a amené là. Et donc, c'était c'est un souvenir fort. Et puis, moi, je suis extrêmement, extrêmement sensible à la voix. C'est-à-dire, probablement pour ça que je suis violoncelliste, sans que je le sache, hein, évidemment. À l'insu de mon plein gré, comme on dit chez les sportifs. Et donc, voilà, tout ce qui est vocal me bouleverse. Et il y a quelque chose qui ne s'explique pas, qui est le timbre. Et donc là, moi, quand j'entends cette variété de timbres, les variétés de styles aussi dans une même chanson, donc je suis très sensible à ça. Et le texte, parce que la poésie, c'est très très important. Et la poésie reste un mystère entre la poésie et la musique, parce que le mystère n'a jamais été éclairci. Quand j'étais jeune, pour étudier l'allemand, parce que j'aime bien parler allemand aussi de temps en temps, je le fais très mal, mais je l'aime bien quand même, j'avais traduit tous les poèmes du Winterreise de Schubert, et pour pouvoir enfin comprendre la musique. Je me suis dit, si je comprends ça, je pourrais comprendre la musique. J'ai toujours rien compris, mais au moins j'ai traduit les poèmes du Winterreise de Schubert.
Il n'y a pas eu que le chant, hein, même au départ pour Ute Lemper. Vous avez d'abord fait des études de danse à Cologne. Quel type de danse? Je vous pose cette question parce que dans votre parcours, plus tard, Maurice Béjart a écrit un spectacle pour vous, c'était La mort subite, et vous avez ensuite collaboré, je sais, avec la troupe de Pina Bausch. Quelle était la danse que vous avez fait à vos débuts? Ute Lemper.
Oui, j'étais fascinée avec toutes les formes d'expression, la musique, à travers la musique, mais aussi à travers le silence. Alors, quand j'étais petite, j'étais déjà ballerine Mais je savais que je n'avais pas la nature et la discipline pour être danseuse classique. J'étais un peu trop sauvage au cœur. Alors j'ai essayé très vite la danse moderne, la danse de jazz, le tap dancing et tout ça. Et puis il y avait le chant, bien sûr, très, très tôt aussi dans ma vie. J'avais des bands de rock, de jazz à l'âge de teenager. Et puis j'ai fait quand même la formation de théâtre à Vienne, au Max Reinhardt Seminar. Après ça, il y avait des engagements où j'étais plus danseuse que chanteuse et je n'étais pas trop contente. Il me fallait vraiment le chant. Et justement, dans le ballet de Béjart, La mort subite, il m'a fait chanter beaucoup. Oh là là, mon Dieu, il m'a fait chanter Salomé, Loulou, les grands rôles classiques. Et c'était une pression énorme, mais un moment fantastique pour moi sur scène. Mais la danse, c'est quand ça devient naturellement... entre le chant et entre la comédie, entre le théâtre, ça va pour moi. Mais ne me mettez pas à côté une danseuse étoile.
Lucille.
Comment est-ce que vous vous êtes formée au chant? Est-ce qu'il y a eu un chanteur ou une chanteuse qui a pu fonctionner à un moment comme référence dans votre parcours?
Bien sûr, oui. Moi, pour moi, les plus grandes, c'est les chanteuses de jazz, comme Sarah Vaughan. Elle est une acrobate, elle a une liberté de voix, une connaissance de harmonie et une intonation et surtout la connexion de l'âme et de la voix et de la manière de chanter. Cette connexion directe, mais rien comme ça existe aujourd'hui, que l'âme parle quand les chanteuses ou les chanteurs chante, tu vois, qu'il y a une directness et aucune arrogance, aucun acrobatisme, comme dans la musique pop, machin, aujourd'hui, mais aucun maniérisme, mais une directe connexion de l'âme. Et ça, pour moi, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nancy Wilson, les grandes chanteuses de jazz avaient ça. Mais bien sûr, j'ai aussi écouté Barbara Streisand et... mais pour moi, par exemple, Barbara, la chanteuse française, la poète française, elle avait aussi une directe, elle n'était pas une grande chanteuse, mais cette directe connexion entre la voix, le mot et l'âme était incroyable.
Votre mère était cantatrice, je crois ?
Soprano, oui. Ça ne m'intéressait pas du tout.
Elle était intéressée... Si j'allais vous parler de ça, parce que vous citez tout le monde, sauf le monde lyrique, en effet.
Oui, oui, non. Non, mais j'ai jamais vraiment compris le bel canto, la manière bel canto singing. C'est quelque chose qu'on peut apprendre, mais c'est justement plutôt quelquefois un éloignement de cette manière d'être directe. Malheureusement aussi pour moi, j'ai aussi étudié ça, mais je ne voulais pas être aussi disciplinée parce qu'on ne peut rien faire. En chanteuse classique, on ne peut pas rien faire. Mais on peut pas aller dans les bars, on ne peut pas hurler, on ne peut pas se fâcher avec son mec, on ne peut pas... Tout reflète immédiatement sur la voix et c'est un névrotisme que je trouve... Tu vois, c'est... Pour moi, je peux être aussi imparfait. Ce n'est pas nécessaire d'être parfait dans le chant, mais parfaitement réel.
Vous pouvez vous disputer avec votre mec.
C'est ça, ah oui, ça, je ne peux pas m'en échapper, malheureusement.
Lucie, comment ?
Comme tous les jours où Tolemper, on demande à nos invités d'apporter un son. Et vous, vous avez apporté ça.
Être capable de me promener en avion, par exemple. Regarder à droite, à gauche. Voir les gens, parler avec un jeune, boire un café. Ça, c'est la culture. La culture, ce n'est pas forcément des musées, des monuments. La culture, c'est les gens. C'est plutôt les gens. Et ça pour moi, bon, c'est la chose la plus intéressante. C'est de là que sort les livres. C'est pas d'une bibliothèque, parce que les livres qui sont dans les bibliothèques sont déjà écrits.
Identification de ce son et la raison surtout pour laquelle vous l'avez choisi, ou te l'aime pas.
Alors, c'est Paulo Coelho. Je connais ça, il dit ça en anglais. Il me prenait une seconde, ça m'a pris une seconde pour réaliser que c'était sa voix. Il m'a beaucoup inspirée l'an dernier et c'est justement mon nouveau projet que je suis en milieu de créer à New York et enregistrer de nouveaux disques. Avec son livre « Les manuscrits trouvés à Accra », il m'a donné... quelque chose de magnifique, une dimension de paix et de spiritualité dans cette vie de turbulence. Et je me suis dit, un mois après, quand j'ai lu le livre, j'étais au Brésil faire des concerts. J'ai parlé à un journaliste, j'ai dit, mais votre Paulo Coelho, il est fantastique. Le lendemain, j'avais un email de Paulo Coelho. Puis, Uta, I love your music, blabla. Et alors finalement, on s'est parlé au téléphone et pendant dans les emails, et j'ai dit, je veux créer un projet basé à ton manuscrit Acre. J'ai dit, vas-y, j'ai poétisé ces chapitres, faire des petits textes, et j'ai écrit la musique, et on est en plein enregistrement, et finalement, je trouve ce poète, ce qu'il nous donne, c'est un univers alternatif. On n'a presque pas le temps pour ça aujourd'hui, parce que tout est fort, vite, et plein d'impressions, mais on n'a jamais ce moment où on se rend compte que sans enthousiasme, sans amour et sans générosité, rien ne marche et rien n'est fun, rien n'est joie. Et voilà, justement, je voudrais mettre ça en musique, cette stimulation. Et voilà, Paulo Coelho, je l'adore.
Une dernière question, Uta Lemper. Récemment, vous avez fait une apparition dans Magic in the Moonlight, le dernier film de Woody Allen. Rapide apparition, vous interprétez une chanteuse française. Qu'est-ce qui vous lie ?
Non, une chanteuse allemande.
Une chanteuse allemande, oui, n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous lie à Woody Allen, vous qui vivez aux États-Unis,
dans cet univers-là ? Mais je peux vous dire que... ce qui me lie, je ne sais pas, mais mon mari, il est New-Yorkais juif, totalement névrotique, comme Woody Allen, mon premier mari et mon deuxième mari aussi. Alors, je vous demande quel problème j'ai de passer ma vie comme ça, à guérir les gens qui parlent beaucoup, qui voient les problèmes partout, qui prennent tous comme stimulation intellectuelle pour discuter la vie.
Et Woody Allen, vous l'avez rencontré dans ce cadre-là ?
Bien sûr. Bon, ben, je suis un fan de Woody Allen depuis très, très longtemps. Il est un peu difficile, il est à peu près un sociopathe. Il n'est pas vraiment à l'aise avec les gens. Mais il était gentil avec moi.
Il y a tellement de sous-entendus. On n'aura pas le temps.
Le rendez-vous.
Plateau Voyage avec vous, Henri de Marquette, violoncelliste. Vous produisez avec les plus grands orchestres du monde, mais aussi en formation de chambre. Vous avez notamment beaucoup joué en duo avec la pianiste Brigitte Engerer. Et lundi prochain, vous serez avec l'accordéoniste Richard Galliano pour une création Contraste. Ce sera au Théâtre du Châtelet à Paris, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la baguette de Franck Ballet. Derrière nous, on entend d'ailleurs un duo avec Richard Galliano. C'est la danse du sabre de Khatchaturian. C'était en 2011. Alors Contraste se présente comme un voyage à travers différentes terres musicales. De la fugue au tango, on retrouve Uta Lemper, en passant par La Musette, une pièce écrite par Richard Galliano. Quel serait l'itinéraire, en fait, de ce récital ?
Non, mais on pourrait commencer cette interview un petit peu de la même manière que vous l'avez faite. C'est vrai que cette rencontre est née d'un projet. J'ai rejoint le sextet de Galliano pour faire un projet Piazzolla. Donc voilà, c'était là. Voilà.
Ah, bah oui, donc Piazzolla était le lien entre les deux.
Voilà. Oui. Donc on peut commencer exactement de la même manière. Et donc c'était autour des années 2000. On s'est rencontrés autour de cette musique-là. Et pour moi, ça a été un choc, une ouverture d'esprit, une découverte de tous les mondes et du monde d'Astor Piazzolla, mais aussi du tango, mais pas seulement de la musique sud-américaine, la musique des pays de l'Est. On a fait le tour du monde ensemble en musique. On était une bande de copains issus du milieu classique à l'entourer et à découvrir ce que c'était que l'improvisation, ce que c'était que le jazz, ce que c'était que les musiques du monde. Et on s'est changé des disques, même pas sous le manteau. On écoutait tout ça ensemble, on commentait, on partageait, et c'était absolument génial. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup joué, on a joué dans des endroits insensés, on a joué. Enfin voilà.
Insensé, ça veut dire quoi ?
Bah, c'est des endroits où, en tant que musicien classique, on va pas forcément. Je sais pas, moi, dans des plein air incroyables avec des vues hallucinantes, comme par exemple à Ravello, où il y a, on est
sur la côte amalfitaine.
Voilà, on est le pied dans le vide, quoi. C'est hallucinants ou dans des lieux peut-être très très grands, sur un lac en Italie aussi, enfin le lac de San Pellegrino, des endroits où on, en montagne où en classique on va pas parce qu'il y a pas de son, il faut refaire le son, donc on n'a pas le son naturel, donc voilà, et on a vécu une aventure absolument magnifique qui a donné lieu à un duo et qui donne lieu à cette œuvre que Richard Galliano a voulu écrire pour nous, Contraste pour violoncelle, accordéon et orchestre.
Lucille.
Vous aviez aussi collaboré à un projet avec un groupe qui s'appelait Despoès sur l'histoire du tango depuis ses origines. Qu'est-ce que le tango vous permet de faire musicalement, vous, au violoncelle ?
Mais vous savez, c'est un style, quoi. Donc, il faut juste apprendre, s'imprégner, se laisser porter.
Qu'est-ce que vous avez dû justement apprendre ou vous adapter par rapport à cette musique ?
C'est difficile à dire, il faut écouter et puis essayer de reproduire progressivement quelque chose qui ressemble un peu à... Mais vous savez, c'est pareil que de jouer Jean-Sébastien Bach, puis après de jouer Brahms ou de jouer Debussy. C'est la même...
C'est le même écart, véritablement.
C'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai pas envie qu'on fasse qu'on catalogue, qu'on mette des étiquettes, qu'on mette des clivages et des machins. Parce que il y a pas tout ça. Pour nous, c'est la même chose, quoi. J'ai pas l'impression, là, on parle de tout ça, de faire ce qu'on appelle du crossover. Je reste le violoncelliste que je suis et que j'ai toujours été. Simplement, j'ai envie de jouer, pas forcément les musiques qu'on m'a dit que j'allais jouer quand j'ai commencé ma vie de musicien, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire 300 ans et dans un périmètre géographique européen, si vous voulez. Non, moi j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller dans l'Amérique, en Amérique du Sud, j'ai envie d'aller partout.
On va rester dans la musique latine puisque vous allez vous installer dans quelques instants à votre violoncelle. Un violoncelle que vous avez changé parce que pendant pas mal de temps... Attendez, je voudrais juste vous poser une question à ce niveau-là. Pendant très longtemps, vous aviez un violoncelle italien de 1697. Et aujourd'hui, Lucille ?
C'est un Stradivarius.
Oui, c'est un violoncelle de Stradivarius qui m'est confié par le groupe LVMH. Donc, ils ont trois instruments de Stradivarius, deux violons et ce violoncelle. Donc voilà, c'est une chance immense et c'est merveilleux. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes peintre puis que vous avez une palette deux fois plus importante à votre disposition. Disons que ça stimule l'imagination, quoi. On a envie de faire des choses qu'on n'a pas forcément eu l'idée. On dit des mots qu'on n'aura pas forcément eu l'idée de dire.
Vous avez véritablement l'impression de développer autre chose avec
bien
cet
sûr,
instrument.
Oui, bien sûr. Développe l'imagination, donc de trouver d'autres mots, si vous voulez, pour la poésie de la musique.
Lucille.
Je vous laisse vous installer, Henri de Marquette, vous serez en direct donc dans le studio 108. On vous écoute dans un morceau de Pablo Casals, un chant catalan qui s'appelle Le chant des oiseaux. Henri de Marquette, c'est à vous.
Yeah.
Ouais.
Merci. Fantastique.
Henri de Marquette en direct dans le studio, le chant des oiseaux, Pablo Casals. Pablo Casals, grand violoncelliste, lui-même catalan, mort presque centenaire, c'était dans les années 70. Qu'est-ce qu'il a pu représenter pour vous, Henri de Marquette, au niveau du jeu ou au niveau du son même ?
Ah, ben c'est un petit peu ce que je disais à propos de la voix, c'est-à-dire qu'en fait, Pablo Casals, dès qu'il joue une note de violoncelle, ça me fait pleurer, même s'il joue pas bien. Hein. Et donc c'est vraiment, alors c'est totalement mystérieux parce que je n'ai pas forcément aimé Pablo Casals tout de suite et maintenant j'adore Pablo Casals.
Qu'est-ce qui résistait pour vous, pour qu'au départ en effet.
Et parce que vous savez, quand on est jeune, bon, il y a des problèmes. Et, et donc moi je trouvais ça pas forcément très glamour, très propre, très machin, très techniquement comme il faut. Voilà. Et puis un jour j'ai eu une sorte de révélation et je me suis dit, mais tout ça n'a strictement aucune importance. Il y a tellement, ce que vous disiez, merci beaucoup, il y a tellement d'âme, il y a tellement de la ligne directe entre l'âme et la sonorité. C'est une évidence, c'est une voix, c'est sa voix. C'est la voix de quelqu'un qui avait un caractère de cochon, mais un caractère très fort et un caractère pour aller s'isoler à Prades, où je suis allé beaucoup en vacances quand j'étais petit, par hasard. Et donc, c'est cette voix à la fois tendre, forte, douce et puis violente aussi, comme ça, rocailleuse, pas aimable pour dessous, et puis d'une grande bonté. Et donc, c'est ça qui me bouleverse. Alors, c'est vrai que quelque part, ça a été une sorte de révélation et que ça balaye un peu toutes les questions de savoir. Il aurait pu être tromboniste, hein, c'est même pas parce qu'il est violoncelliste, ça tombe comme ça. Et c'est un hymne qu'il jouait. En fait, on l'attribue ce morceau à lui, mais c'est un chant traditionnel catalan et il jouait ça comme une sorte d'hymne. On joue ça autant dans les enterrements que dans les mariages, donc ça sert à tout. Et c'était pour marquer marquer sa terre, pour marquer son appartenance forte à cette terre qui elle-même est assez belle.
En parlant d'appartenance à une terre, on dit de vous que vous êtes un des nouveaux représentants de l'école française du violoncelle. Qu'est-ce qui la caractérise ?
Oh ben c'est très aimable, mais c'est bien aussi d'en sortir. C'est-à-dire que oui, on a une très belle école de violoncelle, on a une très très belle école même musicale de manière générale. Quand on voyage, on se rend compte que le conservatoire de Paris nous forme très très bien. Après, ce qui est important, justement, c'est de voyager
et de
s'en sortir.
Mais comment on peut caractériser cette école française du violoncelle ?
Écoutez, l'école française du violoncelle. Ce qui est français, c'est quoi ? C'est la clarté. Hein, c'est l'articulation, c'est la clarté, c'est l'élégance, c'est une organisation du pathos qui est un petit peu méfiante. On se méfie un tout petit peu du pathos dans l'expression française, que ce soit au théâtre. Il y a toujours une petite pointe comme ça de finesse qui fait que ça peut se démarquer. Bon, mais en même temps, par opposition, si vous voulez, j'ai été extrêmement attiré par les Russes et pour jouer avec beaucoup de musiciens russes, mais pour aussi entendre. Et là, il y a le lyrisme. Alors, le lyrisme, parfois, peut un petit peu manquer aux Français.
Lucille ?
À ce propos, vous, après le Conservatoire de Paris, vous êtes allé vous perfectionner aux États-Unis avec un professeur qui est d'origine hongroise, Janos Starker. Qu'est-ce que vous étiez allé chercher auprès de lui, justement, de plus ?
Oh, c'est un des plus grands pédagogues tous instruments confondus. C'est pas seulement le violoncelle. C'était un homme qui était très très paradoxal parce qu'il avait l'air très très froid, mais en fait il était d'une gentillesse absolument, d'une douceur insensée. Il avait une apparence très rebutante comme ça, et il vous donnait en 55 minutes, alors montre en main, ça s'arrêtait, c'était très organisé comme du papier à musique. Ça avait l'air comme ça très très médical presque. Alors il vous donnait un diagnostic, puis des médicaments. Et puis, une fois que vous aviez pris les médicaments et que vous aviez compris l'idée du diagnostic, le problème était réglé, puis on passait à autre chose. Et en fait, c'était un homme d'une grande humanité et qui avait lui aussi amené sa patrie à la semelle de ses souliers, et qui avait amené tout, toute cette, cette, comment dire, cette puissance de l'Europe de l'Est, cette intensité, l'aspect aussi de gens du voyage, l'aspect tzigane, l'aspect bohémien, et puis le rythme, la danse, le phrasé, cette intensité. Voilà, et c'était un homme vraiment merveilleux.
À 17 ans seulement, vous êtes invité à jouer le concerto de Dvorak sous la direction de Yehudi Menuhin, immense chef d'orchestre américain mort il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce qu'il avait remarqué chez vous ? Comment était-il en répétition ?
Ah, Yehudi Menuhin était assez âgé quand je l'ai rencontré. Yehudi Menuhin est une des rares personnes. Il y en a quelques-uns aujourd'hui, mais c'est quand même très rare, qui avait qui dépassait complètement son domaine musical, que ce soit le violon ou la direction d'orchestre. Ça a été un enfant prodige au violon, mais ça a été un enfant à qui on a donné une culture absolument insensée. Et ça tombe bien, on est sur France Culture. Bon, je vais prononcer le mot. Mais
c'était le deal. Hein.
Oui, c'est ça. J'ai réussi. Non, et on lui a donné absolument... Donc, c'était un homme qui avait fait ses humanités, comme on disait à l'époque. Ouais. Et donc, qui avait un savoir universel sur énormément de sujets, que ce soit politique, architecture, historique, musical, bien sûr. Et donc, il émanait de cet homme beaucoup un incroyable rayonnement. Et nous sommes allés à Prague. Et il n'était pas retourné à Prague depuis les événements, le mur, etc. Et nous avons donné une répétition publique dans une salle de 2000 places. La salle, il y a eu un petit entrefilé dans le journal. La salle s'est remplie une première fois, s'est vidée et s'est remplie une deuxième fois. Les gens voulaient le voir, voulaient le toucher. C'était une icône.
Dernière question peut-être, Lucille.
Tous les jours, on demande donc à nos invités d'apporter un son qui les a marqués. Et vous, Henri de Marquette, vous avez choisi ça.
Ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Identification de ce son, même si je pense que beaucoup de gens l'ont reconnu. Et pourquoi vous l'avez choisi surtout ?
Mais alors, il faut que je vous
dise... Henri de Marquette.
Oui, il faut que je vous dise... Bon, allez, tonton flingueur. Alors...
De
en fait, on me l'a dit tout à l'heure. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'on me le dise que tout à l'heure. Et quand on m'a dit choisis un film ou quelque chose, un son, j'ai immédiatement pensé à ça. Je saurais pas très bien vous dire pourquoi. En fait, je crois que si, c'est parce que, ce monde de l'art, c'est merveilleux. C'est très fort, c'est très bouleversant, je trouve. Et moi, une fois que j'ai fini, que je suis sorti de là, j'ai besoin de me marrer. Et donc, j'adore la gaudriole à la française, j'adore les blagues, j'adore tout ça. Et donc, j'ai besoin de rire, sinon je me dégonfle, je me déprime.
Voilà. La dernière, ce sera pour moi la dernière question. Pourquoi on vous surnomme Tintin ?
Non, mais ça, c'était... Vous savez d'où ça vient, ça ? Ça vient de Brigitte Engerer qui m'appelait Tintin. De toute façon, là, ça va, je me suis arrangé, mais j'ai une houppette. Enfin, j'ai pas de cheveux. Franchement, les cheveux, ça va pas du tout chez moi. Donc, c'est un vrai problème.
On verra ça sur la photo qu'on fera tout à l'heure.
Et donc, ça rebique. Voilà. Et donc, elle m'appelait Tintin, le truc. J'avais un petit air de Tintin et ça a été repris. Mais alors, attention, Tintin fait partie de ma base culturelle.
Je peux imaginer.
Ben, j'ai toujours rien compris.
Rien. Grave. Nul. Ground zero.
Pablo Casals, dès qu'il joue une note de violoncelle, ça me fait pleurer. Même s'il joue pas bien. Hein.
Ute, I love your music, bla bla.
Merci à nos invités. Ute L'Empereur Forever, The Love Poems of Pablo Neruda, apparu sous le label Caméléon Productions. Je signale que vous serez sur scène le 15 décembre, Salle Gaveau à Paris. Henri de Marquette, vous serez le même jour au Théâtre du Châtelet à Paris avec l'accordéoniste Richard Galliano. Eh oui, il va falloir choisir, c'est ça la vie. Et le 21 décembre, vous serez à Reims. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
J'avais pas du tout prévu de raconter cette histoire, mais ça a donné un roman qui s'appelle Le Livre de Perles.
Eh bien demain, il faudra attendre lundi. Et lundi, ce sera Roulé Jeunesse et Grand Classique avec Timothée de Fombelle et Thibaut Perrenot et Alice Zenitzer. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Aïssatou Ndoye et Hippolyte Babilote. Journal de la Culture et Supplément Week-end, Zoé Sfez et Benoît Lagane. À la prise de son, Anthony Thomasson et Bruno Gagnère-Fontanil. Et à la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h54 à l'instant même. Vous écoutez France Culture, c'est bien ?